Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité est Thierry Andrieux, maire de Hénon, dans les Côtes-d'Armor. Ça, c'est pour nos auditeurs lointains. Président de l'Emballe Terre et Mer et président également du musée Mathurin-Méheux. On en parlera du musée Mathurin-Méheux tout à l'heure. On parlera un petit peu de culture. Ça fait du bien dans cette actualité parfois contraignante et contrainte. Bonjour Thierry Andrieux.
Bonjour à vous tous.
Alors Thierry Andrieux, on va parler justement de cette actualité qui parfois nous paraît très loin, cette guerre en Ukraine, ces problèmes qui en découlent, et on va parler d'énergie pour commencer, parce que c'est quand même la question de ce début, j'allais dire, de cette rentrée, en tout cas, j'allais dire de ce début de mois de septembre. Nous, on est déjà à la fin du mois de septembre, mais c'est la préoccupation aujourd'hui des Français, des Bretons, et aussi sur l'agglomération Lamballe Terre et Mer. Comment fait une collectivité comme l'Emballe Terre et Mer pour essayer, permettez-moi le terme, de limiter les dégâts?
Oui, on va dire qu'on s'adapte au jour actuel. C'est vrai que le contexte géopolitique avec le conflit ici en Ukraine, effectivement, nous impacte tous. Comme vous l'avez dit, effectivement, les citoyens, le monde économique, mais aussi l'ensemble de nos collectivités. On va dire qu'il y a le bouclier tarifaire pour les particuliers et certaines petites collectivités, mais des collectivités assez importantes, les gros consommateurs d'énergie au jour actuel, n'ont pas de bouclier. Donc ça veut dire que les prix, selon la contractualisation avec les fournisseurs, on va avoir des prix effectivement qui flambent. On peut dire effectivement dans ce contexte climatique que les prix flambent également, que c'est difficile effectivement de canaliser, de maîtriser effectivement nos consommations énergétiques selon le contrat. Donc on essaie de limiter au maximum en réduisant les températures de consigne. C'est la consigne que j'ai donnée également à l'ensemble des services pour abaisser les températures de consigne pour la période hivernale. On sait aussi qu'il faudra aussi faire des efforts, de trouver des artifices, changer la technologie pour certains consommateurs électriques. Je pense au remplacement des luminaires par des LED, etc. Mmh. C'est ce qu'on a fait globalement, qu'on avait anticipé. On n'a pas attendu effectivement cette crise pour pouvoir réduire cette consommation.
Parce que c'est un coût quand même, ces investissements là aussi.
Oui, mais c'est un coût, mais ça permet de pouvoir réduire effectivement ces consommations énergétiques. Je pense à dernièrement, dans un service, ils ont remplacé tous les luminaires, ils ont réussi à diviser par 2,5 les consommations énergétiques. On pense aussi à les éclairages publics. Mmh. Les éclairages publics, on peut réduire effectivement l'intensité lumineuse. On sait qu'on va se concerter au niveau de l'ensemble des maires très prochainement pour pouvoir harmoniser nos pratiques d'éclairage et réduire l'éclairage public en soirée, éteindre l'éclairage public la nuit, voilà, et inciter effectivement aussi les enseignes lumineuses des propriétaires privés, je pense au monde économique, de pouvoir réduire cette consommation. Mais ils vont le faire naturellement, ils ont commencé à le faire, parce qu'ils subissent également ces augmentations de factures énergétiques.
Mmh. Il y a une concertation avec le monde économique.
Oui, on est amené à se voir régulièrement. Mmh. Déjà, on se voit régulièrement, que ce soit en réunion bilatérale ou dans d'autres contextes. Je pense à d'autres acteurs agroalimentaires que j'ai vus au SPAS dernièrement à Rennes, qui sont aussi confrontés. Je pense à les grosses coopératives, le Gouessant, la Coopère, Reden, Grain Paysanne, etc., qui se trouvent dans la même problématique. Au jour actuel, les prix flambent. Comme je dis, quand les prix flambent, c'est 200, 400, 500, 700%. Parfois, selon le contrat engagé auparavant. Donc là, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. On sait qu'il y a certaines pratiques qui vont évoluer, certaines activités qui vont peut-être s'arrêter en période hivernale, cet hiver. On sait malheureusement qu'il va y avoir peut-être des services qui vont être services privés ou publics, qui vont peut-être être limités ou réduits dans le temps, en fonction aussi de la contractualisation. Est-ce qu'on va pouvoir supporter budgétairement? Rappelez quand même que nos budgets doivent être équilibrés, différemment par rapport à l'État. On voit ce qui a été annoncé hier, où on a un budget de l'État qui est déséquilibré. Ils empruntent pour pouvoir arriver à faire fonctionner l'ensemble des services. Nous, on est obligé d'équilibrer nos budgets. Donc,
vous ne pouvez pas emprunter sur les marchés, par exemple, comme le fait l'État.
Voilà, donc nous, on ne peut pas le faire. Donc, du coup, il faut qu'on arrive à équilibrer notre budget. Donc forcément, si nos consommations énergétiques augmentent de façon très conséquente, il va falloir trouver des économies à d'autres endroits. Donc est-ce que c'est en réduisant les services, en les limitant effectivement les créneaux horaires, je pense aux piscines qui sont très énergivores. Donc il y a des...
On peut fermer des piscines finalement ou limiter dans le temps l'utilisation de la piscine?
Oui, alors limiter dans le temps, dans la journée, il faut qu'on regarde effectivement quelles sont la conséquence et quelles sont les économies qu'on pourrait faire par rapport à ça. Mais on sait bien que si on ferme, si on abaisse la température de la piscine pendant un certain temps, pour pouvoir la réchauffer après derrière, il y a un peu d'inertie également, donc il faut qu'on arrive à évaluer au mieux l'impact sur les gestes qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir être beaucoup plus sobre. Globalement, c'est la sobriété qu'il va falloir appliquer sur l'ensemble de nos services. On a parlé effectivement des éclairages, etc. Mais globalement, il va falloir si on prend la température de consigne, sur la baisse de 1 degré, par exemple, on sait que ça va amener à 6-7% de réduction énergétique. Donc tout ça, c'est à voir. On pense à l'eau, mais on pense à l'air. On pense à tout le fonctionnement, globalement. Donc tout ça, c'est à voir de façon globale.
Il y a aussi, Thierry Andrieux, les bâtiments publics. les bâtiments, on peut imaginer différents bâtiments publics qui ont été construits il y a fort longtemps, à un moment où on pourrait les qualifier d'ailleurs de passoires énergétiques aujourd'hui. Est-ce que là aussi vous avez prévu des investissements pour les moderniser ou pour tout simplement les refaire, les abattre, les refaire? Est-ce qu'il y a quelques bâtiments comme ça qui sont concernés?
Alors, de l'ensemble de nos collectivités, je parle pour Lamballe-Terre-et-Mer,
oui,
38 communes, 38 et plus Lamballe-Terre-et-Mer, ça fait 39 collectivités. Tous les élus ont bien compris effectivement qu'il fallait réduire entre guillemets de consommation énergétique, de pouvoir aussi supprimer ou diminuer ces passoires énergétiques, comme vous l'avez dit. Il y a des travaux d'isolation qui ont été faits depuis un certain temps dans certaines collectivités. Et parfois, quand le bâtiment est trop vieux, parfois il faudra effectivement raser le bâtiment pour pouvoir reconstruire, tout en tenant compte aussi de la sobriété foncière. Rappelez que la loi climat et résilience qui s'applique dès août 2021 va nous imposer de réduire notre consommation foncière de 50%. Donc on ne va pas pouvoir forcément étendre et continuer à consommer du foncier comme on le faisait auparavant. Donc il faut pouvoir préserver l'activité agricole et les espaces naturels. Il va falloir penser différemment, aménager nos territoires différemment pour densifier, arriver à renouveler effectivement de l'habitat sur nos centres-bourgs, centres-villes. Mais tout ça en réhabilitant nos bâtiments existants qui sont vieillissants, énergivores, etc. Donc il y a des travaux qui sont faits et l'État est là pour nous accompagner dans le cadre des dotations. La politique de la région Bretagne va dans ce sens-là aussi, et la politique du département dans ce sens-là. Globalement, on est tous en train de faire effectivement des efforts pour isoler nos bâtiments et accompagner également nos habitants du territoire pour pouvoir rénover leurs bâtiments aussi, dans le cas du...
Voilà, parce qu'il y a aussi effectivement tout le parc privé. Il y a aussi beaucoup de maisons individuelles qui ne sont pas forcément bien isolées. Alors, il y a aussi, au niveau des habitants de Lamballe-Terre-et-Mer, l'interrogation, est-ce que les impôts vont augmenter? Parce que c'est aussi la question du moment, c'est comment avoir des recettes sans trop augmenter les impôts, mais en ayant quand même ces recettes. Alors, est-ce que vous avez une recette miracle, si vous me permettez?
Alors, on n'a pas de recette miracle, globalement, pour maintenir, entre guillemets, nos recettes. Une chose est sûre, c'est que le président de Lamballe-Terre-et-Mer que je suis et le maire de Hénon, nous n'allons pas augmenter notre taux d'imposition. Je n'ai pas dit que l'imposition allait augmenter. Nous n'augmentons pas notre taux. Par contre, la base fiscale est revalorisée. Donc c'est l'État qui revalorise cette base fiscale qui impacte effectivement l'imposition de nos habitants. La réforme qu'il y a sur la fiscalité dans le plan de le projet de loi de finances 2023, on annonce quand même que l'État va réduire la fiscalité au niveau des entreprises. Rappelez que cette fiscalité revient quand même aux collectivités. Alors, quid effectivement de cette dynamique de cette fiscalité? Attention effectivement à ne pas fragiliser nos collectivités. Parce qu'on s'aperçoit que globalement, l'État a tendance à transférer de plus en plus de charges aux collectivités et en réduisant leur marge de manœuvre. Il y a une orientation qui est donnée pour nos collectivités. Oui, les collectivités doivent faire un effort, mais rappelez que nos budgets sont équilibrés, d'une, et qu'on fait tous des efforts pour pouvoir apporter un service qui a été transféré de l'État vers nos collectivités, que ce soit les agglomérations, le département, la région et nos communes respectives, pour amener un service public de proximité. On a tendance à oublier d'où venait effectivement ce service qui était porté par l'État auparavant. On pense effectivement aux cartes d'identité qui ont été transférées aux communes, même s'il y a un accompagnement au niveau de l'État, mais qui
ce qui pose qui problème d'ailleurs, parce que les communes sont submergées.
Oui, on a vu suite à la crise sanitaire, il y a eu un peu de retard par rapport au renouvellement des petites entités, et là on voit qu'il y a une attente forte du citoyen, et c'est tout à fait logique, mais là on est en train d'effectivement remonter une défaillance, mais un manque de services au niveau des communes, mais il faut bien se rappeler que c'était quand même l'État qui l'avait auparavant. Alors, donc l'État a transféré beaucoup de compétences aux communes, et en ne donnant pas de moyens. Et ce qu'on entend, j'ai vu effectivement dans la presse pas plus tard qu'hier, c'est que l'État souhaite effectivement baisser les frais de fonctionnement, du budget de fonctionnement des grandes collectivités. Alors je ne sais pas comment on va pouvoir supporter l'inflation, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires qui était attendue depuis un certain temps, et le coût énergétique, on en parlait tout à l'heure, comment on va pouvoir supporter ça. Donc si on est limité, le risque, c'est effectivement qu'on réduise effectivement le service auprès des citoyens. Alors qu'on a un réel besoin de services de proximité, et on voit bien que la première porte d'entrée, quand même, c'est la mairie, c'est nos intercommunalités, c'est le département, c'est la région, et c'est pas forcément l'État. Les services de l'État, aujourd'hui, on en voit de moins en moins à arriver sur nos territoires. Les Maisons France Services, si je prends un exemple, c'était un service quand même des différentes structures publiques de l'État qui sont transférées aux communes qu'elles souhaitent, avec un certain nombre d'endroits sur le territoire, mais tout ça sur la charge des collectivités territoriales.
Voilà, c'est les collectivités territoriales finalement qui prennent en charge ce que l'État aurait dû prendre en charge. Ça peut mettre en danger des petites communes qui se sont endettées, par exemple, pour refaire un centre-bourg ou pour faire des aménagements. Ça peut être dangereux.
Globalement, les maires sont responsables. Ils gèrent leur budget, ils arrivent à l'équilibrer, donc ils arrivent à se projeter. Et je ne pense pas qu'il y ait de risques sur le budget de nos collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que c'est des élus responsables, ils connaissent effectivement leur budget, ils savent anticiper, ils savent effectivement les investissements qu'ils vont pouvoir réaliser, et ils se projettent aussi sur plusieurs années jusqu'à la fin de leur mandat généralement. Donc il y a pas, je pense pas qu'il y ait de risque.
Ça peut peut-être ralentir des projets par contre.
Ça peut par exemple freiner l'investissement, freiner effectivement l'économie. On sait bien que si jamais notre budget de fonctionnement est contraint, on va moins investir. Et rappeler quand même que l'ensemble des collectivités françaises, c'est 70% de l'investissement public au niveau national. 30% reste l'État et 70% c'est de l'ensemble des collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités, le département et la région. Donc on a tout intérêt à avoir de la possibilité pour pouvoir investir, pour pouvoir pas freiner non plus l'économie. On sait que l'année 2022, la fin d'année 2022 va être complexe, l'année 2023 va être très difficile, annoncé déjà. Donc comment arriver à soutenir l'économie, pas ralentir ? On commence à parler de récession peut-être pour 2023.
Il en est question, effectivement.
Il en est question. Donc,
le terme a été lancé dans la presse.
Je pense qu'il faut faire attention effectivement aux mots qu'on utilise. Mais on a tout intérêt à avoir de la possibilité de ne pas freiner l'économie. On a vécu comme une crise économique en 2008. Rappelez qu'on a eu une crise sanitaire en 2020 qui a impacté notre monde économique, même si l'État a bien accompagné le monde économique. Mais là, il faut qu'on puisse relancer l'économie pour pouvoir investir et pouvoir maintenir de l'emploi sur notre territoire. Même si on a un territoire qui est dynamique sur le territoire de l'Ambelle-Terre-Mer, on a un taux de chômage qui est inférieur à 5%, qui nous pose d'autres problématiques. On a parlé tout à l'heure des consommations énergétiques, mais de l'habitat. Comment arriver à loger des habitants sur notre territoire ? Encore plus sur les littorales où le prix du foncier, le prix peut être inaccessible pour les primo-accédants. En tout cas, l'Ambelle-Terre-Mer est là pour pouvoir accompagner à travers une aide à l'accession pour les primo-accédants. Et on sait qu'on doit aussi, à travers notre plan local d'habitat, de pouvoir accompagner la rénovation énergétique, je reviens à la rénovation énergétique, pour les habitants du territoire.
Souvent les plus fragiles d'ailleurs qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire de l'isolation, ça coûte beaucoup, il n'y a plus l'isolation à 1 euro, c'est fini. Voilà. Mais comment aider l'Ambelle-Terre-Mer ne peut pas aider tout le monde, donc là aussi ce sont des choix.
Alors, on essaie d'accompagner.
J'entends des choix politiques,
des choix politiques. Il y a forcément un choix politique en montant au niveau des décisions, des arbitrages dans nos différents budgets. Notre volonté, c'est de pouvoir accompagner le maximum de personnes dans cette transition qui est nécessaire. On sait que nos collectifs doivent faire un effort. Le monde économique doit faire un effort parce qu'ils subissent leur budget on parle des collectivités, mais le budget du monde économique, des entreprises, c'est le même. Et effectivement, nos citoyens. Comment on peut les accompagner au mieux avec les moyens que nous avons. Mmh. Et on peut effectivement les accompagner déjà par l'accompagnement au niveau des orientations, donc à travers l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est du pays de Saint-Brieuc, deux agglomérations de Saint-Brieuc et de Lamballe-Terre-et-Mer. On peut conseiller effectivement les propriétaires à réduire effectivement leur consommation énergétique et les conseiller de façon neutre pour pouvoir faire des travaux d'isolation, d'amélioration énergétique.
Alors le monde économique, hein, Thierry Andrieux, c'est important. Alors il y a de grosses industries hein, sur le pays de Lamballe, allais-je dire. Pour faire simple, vous les citiez tout à l'heure, la Coperle ou encore le Gouessant, grande coopérative. Mais il y a aussi beaucoup de petits artisans, de petites entreprises, parfois des micro-entreprises. Elles subissent aussi cette crise qui va croissante en ce moment de plein fouet. Là aussi, il va falloir les accompagner. Et de quels moyens dispose Lamballe-Terre-et-Mer, par exemple, pour pouvoir aider ces petites entreprises pour pas qu'elles subissent trop la crise?
Alors, déjà, on accompagne à travers la compétence économique. On a un point important, c'est qu'on aménage effectivement notre territoire pour pouvoir accueillir ces entreprises. Je pense aux zones d'activité économique. On est dans une zone d'activité économique, j'aurais dû à l'espérance à qu'elle soit. Mais il y a d'autres zones d'activité sur le centre du territoire, de Trémeur jusqu'à plus rien, jusqu'à qu'elle soit Saint-Alban, pas qu'elle soit Erquy, Saint-Alban, Lamballe, etc.
Plus rien, je le précise, pour nos auditeurs qui sont loin, c'est le nom d'une commune, hein, plus rien, voilà, c'est important, je vois déjà les jeux de mots arriver, mais voilà, c'est important de
très bien, une commune de plus rien, il y a une zone d'activité, etc., il y a différents endroits, qu'on puisse aménager nos territoires, donc c'est bien sur notre budget des zones d'activité qu'on accompagne l'installation des entreprises. On accompagne aussi l'installation des entreprises à travers du pass, par exemple, des artisans, des commerçants, à travers le pass artisan-commerçant avec la région Bretagne, partenariat avec la région Bretagne, qui a la compétence économique également. Et on essaie d'accompagner en fonction des transitions, en fonction des besoins aussi des entreprises. Pendant la crise sanitaire, on a accompagné à travers un fonds de solidarité les entreprises. Et donc là, il est en train de réfléchir, effectivement, comment on va pouvoir, avec l'aide de la région, comment on va pouvoir accompagner certaines entreprises sur le territoire. Les entreprises qui pouvaient être en difficulté. Et on sait aussi remonter des informations. Mmh. On sait que le bouclier tarifaire qui est mis en place au niveau des particuliers, il y a de fortes demandes du monde économique. Pouvoir est accompagné également. Donc ça, on est capable de remonter aussi. On remonte des informations au niveau du gouvernement pour pouvoir avoir un geste sur ça. Parce qu'on sait bien que c'est pas dans notre collectif, c'est pas la collectivité de Lamballe-Terre-et-Mer qu'on a les moyens de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Et quand vous parlez effectivement des acteurs économiques, on a parlé des grandes coopératives, mais aussi qu'on a de belles entreprises. Juste à côté, on sait qu'on a l'entreprise Marie Morin qui nous fait de très bons desserts pour notre territoire.
Voilà, ça, vous allez mettre l'eau à la bouche de notre réalisateur.
Qui permet aussi qui se développe. Donc, nous, effectivement, de pouvoir les accompagner. Des fois, quand il nous manque un peu de foncier, parfois, c'est possible aussi. Ça arrive que les communes, les entreprises puissent se déplacer aussi. On sait que Marie Morin s'est déplacée pas plus tard qu'à Trégueux. Et inversement, parfois, c'est dans le sens inverse. On a tout intérêt à travailler main dans la main, les deux agglomérations, au niveau de Saint-Brieuc agglomération et de Lamballe-Terre-et-Mer, pour aménager notre territoire. Et ce qui nous amène à travailler actuellement au niveau du syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc, donc je suis le président.
Voilà, je ne l'ai pas précisé en commençant, hein, mais voilà, vous l'avez dit.
Voilà, on est en train de travailler sur le futur SCOT, le futur document d'urbanisme supra au-dessus du PLUI, au-dessus des PLU, pour pouvoir aménager notre territoire à l'horizon 2030. Tout ça en tenant compte de la loi climat et résilience que j'ai parlé tout à l'heure, où on va nous demander de réduire notre consommation foncière de 50%.
Voilà. Comment finalement allier économie, développement économique, logement et réduction justement de ces constructions pour conserver du foncier, pour conserver des terres agricoles?
Alors, l'objectif, c'est bien de préserver de la terre agricole et des espaces naturels en même temps. Bonne chose, mais après, derrière, comment on arrive à allier sobriété foncière, développement économique, de la demande pour l'habitat, tout ça en tenant compte effectivement de l'existant. Mmh. On sait qu'il y a eu des aménagements de zones d'activité, par exemple, qui ont été très très sobres au niveau du foncier. Donc il va falloir revoir ça. On va aménager différemment nos zones d'activité. Je pense au développement économique dans nos centres-bourgs, centres-villes. On a des friches aujourd'hui qui sont vacantes. On a aussi des pas de porte qui sont vacants aussi. Donc à nous, intérêt de travailler et pouvoir densifier davantage, reconquérir ses friches, les réhabiliter. Et on sait bien qu'il faudra parfois effectivement investir de l'argent public pour pouvoir redynamiser nos centres-bourgs, centres-villes, en réhabitant ces friches dans ce contexte énergétique qu'il va falloir maîtriser ses coûts. Voilà.
Il nous reste 5 petites minutes, Thierry Andrieux, ça va vite le matin à la radio. J'aurais voulu vous entendre, avant qu'on parle de musée Mathurin Meilleux, parce que c'est important aussi la culture, j'aurais voulu vous entendre aussi sur les relations entre les différentes entités, parce qu'on parle du département, on parle évidemment des communautés d'agglomération, des communautés de communes, parfois encore, et puis il y a la région. On a l'impression quand même qu'ici en Bretagne, ça fonctionne bien entre les différents acteurs.
On a la chance, déjà, pour le territoire des Côtes d'Armor, d'avoir 8 intercommunalités. 8 EPCI, 8 COMCOM, 8 agglomérations, après, en fonction de l'appellation. On a la chance de pouvoir avoir que 8, effectivement, EPCI, et de pouvoir avoir cet échange régulier. Mmh. On se voit assez régulièrement. On peut se voir également avec le président du département assez régulièrement également, et avec le préfet également. Donc on a la chance, on appelle ça le C8, C9, C10, si on met le 8 plus le département plus l'État. Et on a aussi cette coopération qui suit des Bretons. Les Bretons, à la limite, coopèrent assez facilement. Mmh. Et on a, à la même échelle, on a cette discussion entre l'ensemble des collectivités de Bretagne avec la région. On se voit régulièrement et à travers les différentes structures annexes, parce qu'il y a plein de structures annexes, je pense tout à l'heure on parlait du comité syndical de la baie de Saint-Brieuc, de pouvoir aménager le territoire et avoir cette concertation entre nos collectivités. Donc oui, on échange, on n'est pas forcément toujours d'accord, on essaie de trouver un consensus.
C'est le débat finalement.
C'est le débat, voilà. Et quelles que soient les sensibilités, on se met toujours autour de la table pour pouvoir échanger, arriver à trouver... un point de convergence, une orientation avec ce consensus qui est nécessaire, quelles que soient nos orientations politiques.
Voilà, justement, les sensibilités, elles sont diverses, hein, c'est la démocratie, et on a l'impression ici, en Bretagne, alors là encore, hein, je ne vais pas dresser un tableau idyllique, hein, si je voulais être un peu trivial, je dirais parfois ça frite, mais il y a toujours ce dialogue qui va dans le sens du collectif.
Effectivement, il y a toujours ce dialogue, toujours ce respect, voilà. On s'écoute, déjà c'est important, parce qu'on a tendance à s'écouter, il faut bien s'écouter et après pouvoir échanger et construire. Oui, cet échange est régulier, voilà, il y a un état d'esprit qui est constructif. Mmh. Voilà. On essaie d'amener l'intérêt général à chaque fois au centre des discussions. Et c'est bien le citoyen, je regarde le besoin du citoyen, qui est au centre de nos discussions et pas forcément l'intérêt des élus.
Et ça, c'est important par les temps qui courent. Allez, il nous reste 3 petites minutes, Thierry Andrieux. Je voulais vous entendre sur le musée Mathurin Meilleux. Vous en êtes le président. Mathurin Meilleux, c'est un nom déjà en Bretagne et peut-être plus à Lamballe encore.
Alors, Mathurin Meilleux, effectivement, est né à Lamballe et avait son petit musée au centre de la ville de Lamballe, qui était porté il y a quelques années par une association, par les amis Mathurin Meilleux. Bien rappeler effectivement l'origine, il y avait besoin de se structurer, donc les élus précédents avaient mis en place un groupement d'intérêt public avec 3 acteurs importants, 3 acteurs financiers, sans oublier les amis de Mathurin Meilleux, la ville de Lamballe-Armor forcément, Lamballe Communauté à l'époque avec Loïc Corret et le département des Côtes d'Armor pour pouvoir mettre en place ce GIP, pouvoir développer ce musée. Et en 2014, il a été validé le projet d'extension de ce musée, qui était à l'étroit, qui n'était pas accessible déjà aux personnes à mobilité réduite.
Il était dans la maison du bourreau à Lamballe.
Voilà. Il était à la maison du bourreau, donc voilà.
Alors le nom est un peu cruel.
Voilà. Donc désormais, le musée a été ouvert le 18 juin 2022. Il est arrivé au RAS national, pour pouvoir avoir ce rayonnement d'intérêt régional, de rayonnement régional, pour on l'a déplacé dans une ancienne écurie à chevaux. Mmh. Donc une rénovation assez importante. On peut retrouver de nombreuses œuvres, sachant qu'on a en stock plus de 6000 œuvres à présenter. Donc on en présente de mémoire même pas un dixième dans le musée. Donc on a la possibilité de pouvoir le retrouver. Et on a mutualisé cette entrée, cet accueil, dans le Radio National, avec le Bureau d'information touristique et le syndicat mixte du Hara. Donc vous avez la possibilité, rentrant dans le Hara de Lamballe, vous allez pouvoir vous découvrir le territoire à travers le bureau d'information touristique. Vous, si jamais que vous souhaitez effectivement faire une visite du site du Hara, vous allez pouvoir découvrir le syndicat et vous allez pouvoir découvrir les œuvres du Mathurin Méheu, où vous allez retrouver la tapisserie de la mer, une grande tapisserie de la mer qui a été rénovée, qui était dans le bureau du préfet des Côtes d'Armor il y a quelques années. Et juste en face, vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui sont intéressés, de retrouver le carton qui n'a jamais été exposé. Donc le carton, c'est le brouillon, entre guillemets, de l'artiste qui a été peint avant la guerre, que vous allez retrouver juste avant la tapisserie de la mer. Donc je vous invite à découvrir ce musée qui a déjà une forte affluence. On est à plus de 15 000 visiteurs depuis le mois de juin. Donc on est dans les objectifs qui sont promis, en tout cas qui sont prévus, pour pouvoir présenter les œuvres de Mathurin Méheu à l'ensemble des Bretons. Et pour l'instant, c'est une très belle réussite. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir ce beau musée. La culture est importante et notre volonté politique, c'est de pouvoir rendre ces œuvres, la culture, à tous les citoyens et à amener la culture au plus près de nos citoyens.
C'est important en ces temps difficiles et troublés. Thierry Andrieux, j'ajouterais à titre personnel, allez visiter ce musée Mathurin Méheu et puis profitez-en pour visiter le Hara, ça vaut le coup d'œil également. Voilà, on va devoir s'arrêter là. Thierry Andrieux, il est déjà 8h57. Je rappelle, Thierry Andrieux, que vous êtes maire de Hénon, dans les Côtes d'Armor, président de l'Embalter et maire et président, on l'aura compris également, du musée Mathurin Méheu. Vous étiez en direct avec nous ce matin. Je vous remercie d'être venu jusqu'au micro de Bretagne 5.
Bonne journée à tous.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.